tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog.
Bonjour à tous, nous sommes comme toujours très heureuses, Elodie et moi-même, de nous retrouver sur Radio Grenouille pour cette nouvelle émission du Livre de Frog. Pendant une heure, nous allons parler de l'un des livres préférés de notre invité du mois, Thierry Fabre, directeur de la programmation culturelle au MUCEM. Il a choisi pour nous un roman de Julien Gracq, paru en 1951, Le Rivage des Sirtes. Et avant d'entamer la discussion, nous commençons, comme nous en avons l'habitude, par un extrait lu et choisi par notre invité.
On ne reconnaissait guère la mer des Sirtes dans cette soirée annonciatrice de tempête. À l'abri pourtant, encore des flèches de sable, la houle se gonflait déjà d'une longue respiration noire, venue de très loin, menaçante de calme entre les roseaux échevelés. Un vent froid et vierge, comme s'il avait passé sur les neiges, fraîchissait de minute en minute, giflait d'une poigne rude le navire par le travers. Dans cette jungle de sifflements rauques, de déhanchements et de froissements rudes, son ombre noire glissait comme une clairière de silence. Une lumière diffuse et sous-marine baignait la passerelle. Les mouvements des hommes de quart s'endormaient ralentis par des épaisseurs d'eau. Fabrizio gardait près de moi un silence de statue, effleuré par instants d'un doigt de pianiste un instrument délicat. Sa gesticulation incompréhensible et précise rivait mon œil dans cette nuit brouillée, comme les arabesques d'une main de chirurgien errant au-dessus de son champ de linge. Soudain, il tourna la tête et me parla d'une voix où la grossièreté cordiale de la vie revenait comme le sang au visage, et je mis longtemps à comprendre que ce visage baigné de sueur en face de moi souriait. « C'est la passe. Tu n'as pas eu peur, Aldo ?» Si Marino m'avait emmené tout de même une fois, je dirais que je me suis jeté à l'eau sans savoir nager. Je le fixai à mon tour, ahuri. Tu n'avais jamais reconnu le nouveau chenal ? Et plus loin. Je m'assis de nouveau devant la table, et soigneusement, méticuleusement, je me mis à relever quelques distances sur les cartes marines. Si routinier, si automatique que je m'appliquasse à rendre ce travail, j'étais confondu pourtant de trouver les distances que je mesurais si médiocres, comme si les rivages de cette mer fermée fussent accourus en demi-cercle au-devant de notre proue, soudain presque à la portée de la main. Et il me sembla comprendre d'un coup, à me remémorer mes rêveries de la salle des cartes, comment le sommeil d'Orsena et la prise détendue de sa main avaient fini par noyer ses frontières les plus proches, dans des brumes lointaines. Il y a une échelle des actes qui contracte brutalement devant l'œil résolu les espaces distendus par le songe. Le Farguestan avait dressé devant moi des brisants de rêves, l'au-delà fabuleux d'une mer interdite. Il était maintenant une frange accore de côtes rocheuses à deux journées de mer d'Orsena. La dernière tentation, la tentation sans remède, prenait corps dans ce fantôme saisissable, dans cette proie endormie, sous les doigts déjà ouverts.
Le livre de Frog.
Bonjour Thierry Fabre.
Bonjour.
Salut Erika.
Bonjour Elodie, bonjour Thierry Fabre.
Merci beaucoup de cette très belle lecture qui nous donne déjà un très grand aperçu du livre dont nous allons parler. Donc aujourd'hui, le Rivage des Sirtes que Julien Gracq donc a publié chez Corti en 1951. Alors avant de parler de ce livre, quand même, nous allons présenter notre invité. Vous êtes un acteur bien connu du paysage culturel marseillais. On sait le rôle que vous tenez au MUCEM. Vous avez également fondé les Rencontres d'Averroès, un rendez-vous aujourd'hui incontournable où chercheurs, philosophes, artistes, écrivains se rencontrent pour parler de la Méditerranée des deux rives, pour étudier cet espace méditerranéen complexe. Vous avez également dirigé pendant une dizaine d'années la revue La Pensée de Midi et vous êtes aussi essayiste. Vous avez notamment publié Éloge de la Pensée de Midi chez Actes Sud en 2007. Alors venons-en au Rivage des Sirtes qui va nous occuper aujourd'hui. Ce roman, Grac le publie en 1951, c'est son troisième roman. Et bien qu'il prévient qu'il est non candidat au prix Goncourt, dans un essai paru quelques années auparavant, il avait dit tout le mal qu'il pensait de ces prix littéraires.
La littérature à l'estomac.
Exactement. Et bien ce prix Goncourt, il le reçoit. Et comme il est très honnête avec lui-même, il le refuse. Alors je ne peux d'ailleurs m'empêcher en passant de citer la phrase de Raymond Queneau, qui était alors jury du Goncourt, qui affirma aux journalistes que le prix allait revenir à Julien Green pour Les Ravages de Sartre. Alors, un mot de notre auteur. Julien Grac est né en 1910. Il passe la cagne d'Henri IV, l'école normale supérieure. Il est agrégé, je pense qu'il faut le préciser, de géographie. Et puis, il publie son premier roman en 1939. Et toute sa vie, il sera à la fois Louis Poirier, donc professeur dans un lycée, et Julien Grac, dont l'œuvre en prose et l'œuvre critique aussi, il ne faut pas l'oublier, reste parmi les plus marquantes du XXe siècle en France. Alors racontons un peu comment commence le Rivage des Sirtes. Aldo, jeune héritier d'une noble famille d'Orsena, ne supporte plus la torpeur dans laquelle la vieille seigneurie se morfond. Il demande à partir pour les Sirtes, une province côtière lointaine où une petite garnison végète sous le commandement du capitaine Marino. Aldo est donc envoyé comme observateur des forces légères à l'amirauté, dans une forteresse qui se situe donc sur les rivages des Sirtes, en face des côtes du Farguestan, contre qui, trois siècles auparavant, Orsena a fait la guerre. Depuis, il ne s'est rien passé, mais Orsena et le Farguestan restent deux ennemis héréditaires qui n'ont signé aucun traité de paix. Le réveil d'un conflit éteint depuis 300 ans est improbable et pourtant, dans ce roman où il ne se passe presque rien, hein, Aldo l'affirme, il semblait très vite qu'il n'y eût rien à observer à l'amirauté. Nous suivons donc Aldo, qui dans cette vie retranchée et désœuvrée est néanmoins irrésistiblement attiré par le rivage d'en face, par ce Farguestan. Le Rivage des Sirtes est un roman fiévreux, une longue attente qui se charge d'électricité au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Il nous raconte l'histoire d'un simple observateur, d'une simple sentinelle qui va finir par provoquer l'irréparable. Alors il faudrait dire un mot du style de la phrase de Julien Grac, que personnellement j'aime infiniment, je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. Je citerai les mots d'un autre, du poète Georges Perros. Chaque fois que je suis tombée sur un texte de Grac, j'ai ressenti une jubilation, ou mieux une brûlure, un peu comparable à celle que provoque une boule de neige dans la pomme. Il y a dans la prose de Grac comme un cliquetis d'armes, sa phrase est chargée, chargée motive, et fait soudain craquer le texte entier comme le dégel d'un étang. Il y a emportement, l'alcool métaphorique emporte le linéaire, l'enivre. Alors, question rituelle, Thierry Fabre, pour commencer, tout livre de Frog qui se respecte, pourquoi avoir choisi ce livre aujourd'hui ?
Parce que c'est un livre qui me parle. Parce que c'est un livre qui est sur la tentation de l'ailleurs, sur le désir d'aller au-delà, de regarder l'horizon et de ne pas se contenter d'être inerte. Et c'est un livre de méditation sur des civilisations ensommeillées, des villes perdent leur sève et qui, à travers la jeunesse d'Aldo et son désir d'aller là-bas, de retrouver au fond une vigueur et un rapport à l'histoire. C'est une façon de, pour moi, c'est un texte que je connais depuis, je devais avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Traversée, qui commence sur les îles de l'Hérens, parce que je suis né à Cannes, au large de Cannes. Et il se trouve qu'il y a des îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, et Saint-Honorat en particulier, qui est une île incroyable, hein, puisqu'il y a un monastère qui a été fondé au 5e siècle, et un monastère fortifié du 11e siècle, Au haut de ce monastère, on peut regarder la mer et regarder l'horizon. Et je pense que moi, j'ai construit, j'ai été orienté, aimanté par la Méditerranée. Et le rivage des Sirtes a eu un écho extrêmement profond dans mon imaginaire, avec le désir d'aller là-bas, de franchir l'horizon, de... Alors je ne sais pas si c'est pour bousculer l'histoire, je ne suis pas dans la configuration d'Aldo, je n'ai pas d'identification de cet ordre, mais en tout cas, depuis cette terrasse du monastère fortifié de Lérins, qui donne dans la mer, oui, j'ai eu envie d'aller voir de l'autre côté de l'horizon, et c'est comme ça que je suis allé vivre une année en Égypte, que j'ai appris un peu d'arabe, que j'ai essayé de regarder la Méditerranée en décentrant mon regard. Et donc Sartre, le rivage des Sirtes est au fond un apprentissage, c'est après, pour moi presque un livre initiatique, quoi. C'est comment la littérature et quelle littérature, parce que c'est vrai que j'en ai lu un extrait, on pourrait en lire bien d'autres. Il y a une qualité de langue qui est assez incroyable. Bon, il faut savoir effectivement que Gracq était très ami de Breton, pas poète lui-même et pas lié directement au mouvement surréaliste, mais complètement dans cette insurrection de l'imaginaire. Et donc, oui, cette part de rêve n'a pas cessé de m'accompagner. Et peut-être que, je ne sais pas, vous avez parlé de ce que je fais professionnellement dans un musée, le MUCEM, l'exposition d'ouverture qui s'appelait Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen. J'ai d'ailleurs mis un extrait du Rivage des Sirtes à un moment dans le parcours, parce que justement c'est une évocation au rêve. Et cette place laissée au rêve n'est pas une fuite de la réalité, mais une façon de la transfigurer, ou peut-être même de l'accomplir. Et je pense que en même temps... Le Rivage des Sirtes est un grand livre politique sur la décomposition de ce vieux monde qui est le monde méditerranéen et peut-être le monde européen. Et quelque part, cet appel au réveil, au sursaut, parce que bon, Gracq a été évidemment marqué par les années de guerre, on le verra, on voit très bien dans son livre qui s'appelle « Un balcon en forêt ». Voilà. Puis c'est un écrivain décentré, c'est pas un écrivain méditerranéen du tout, puis c'est un homme de la Loire, de Saint-Florent-le-Vieil, de Nantes, mais justement il est quasiment jamais allé en Méditerranée, il est juste passé de retour de Budapest à Venise, et on dit que ce passage qui lui a inspiré les Sirtes. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup aussi dans Le Rivage des Sirtes, c'est que c'est un livre qui n'est pas situé, c'est-à-dire le Farghestan, les Sirtes, alors les Sirtes, la mer des Sirtes, ça existe, mais on est quelque part, on voit clairement qu'on est quelque part dans le monde méditerranéen, mais voilà, c'est un appel à l'imaginaire. Donc voilà, quelques raisons qui m'ont fait choisir ce livre, mais il pourrait y en avoir bien d'autres.
Quelques raisons déjà très riches, et puis qui font, je pense... qui nous font sourire, Élodie et moi, parce qu'en préparant cette émission, vous avez évoqué beaucoup de choses que l'on essayait de supposer. Notamment, c'est vrai que voilà, quand on voit vos fonctions aujourd'hui, je n'avais pas lu, je connaissais de nom Le Rivage des Sirtes, mais je ne l'avais pas lu. Et puis, quand je lisais, je me disais, j'aurais pas imaginé qu'ils choisissent ça. J'aurais imaginé quelque chose, voilà, peut-être de plus territorialisé
dans le monde méditerranéen.
Voilà, par exemple, dans le monde, oui, complètement.
Il faut un peu vous surprendre, non?
Non, mais complètement.
Voilà. Fallait pas qu'il y ait une évidence.
C'est ça. Donc j'étais surprise, et puis du coup, je faisais un peu comme Aldo, je cherchais des signes, et notamment cette...
J'avais une tentation de vous proposer Le Guépard, parce que j'aime énormément le film, mais plus encore le livre de Lampedusa. Et vous savez que Le Guépard, c'est aussi un grand livre de la décomposition de Palerme et de la Sicile, et en même temps de son renouveau. Mais il me semblait justement que ça aurait peut-être été un peu trop attendu. Et puis, Le Guépard, je l'ai lu beaucoup plus tardivement, alors que le Rivage des Sirtes est un livre qui m'a marqué quand j'avais une vingtaine d'années.
ça c'est drôlement intéressant. Du coup, donc, vous avez répondu à cette question qui m'intriguait de pourquoi ce livre, je trouve de manière très riche. Et on hésitait donc à commencer l'émission avec cette question aussi de la Méditerranée, savoir est-ce qu'on pouvait, est-ce que c'était étonnant de nous voir étonnés ou pas. Et puis on hésitait aussi, c'est là, ce qu'on avait choisi de faire, de commencer justement sur la fin du roman, puisque quand on vous a proposé de venir nous parler d'un livre, donc du Rivage des Sirtes, vous nous avez donc dit ce livre-là et particulièrement la dernière conversation qui a lieu dans le roman, donc entre Aldo et Daniello, puisque donc Élodie l'a dit, c'est un roman de l'attente, véritablement. Il ne se passe pas grand-chose jusqu'à, on sent en fait tout au long du roman quelque chose qui est en processus, c'est-à-dire qui commence à arriver, qui commence à surgir, qui s'annonce. Même plus qu'il commence à surgir, c'est qui s'annonce. Et donc, effectivement, on a l'impression, à la fin, il y a cette conversation qui arrive, donc, où, effectivement, Aldo, tout le roman, personne depuis 3 siècles n'a osé aller de l'autre côté pour aller dans le Farghestan. Et donc, Aldo, à un moment donné, le fait, il y va, et de là va surgir progressivement, tout va s'accélérer et va surgir l'événement et tout va se mettre en branle à partir de ce moment-là. Et ce n'est pas ce que nous montre le roman. On ne nous montre jamais véritablement quand c'est en branle totalement. Par contre, on a cette réflexion à la fin qui est sur pourquoi ça s'est mis en branle et comment ça s'est mis en branle. Et on a l'impression finalement que toute cette attente, c'est vraiment, le roman est en fait la mise en scène. La mise en scène sur une mise en scène de sur ce qu'est un événement historique, sur comment naît un événement historique, comment surgit. Et donc effectivement, je voulais vous demander savoir cette place de cette réflexion qui finalement le roman se termine sur cette réflexion très dense qui contraste avec le reste du roman aussi.
Oui, d'ailleurs j'ai appris que ce dernier chapitre avait été écrit 1 ou 2 ans plus tard puisque c'est un livre qui commence, je crois, dans les années 47, donc marqué par la guerre et qui est publié donc en 51 et et le dernier chapitre, cette longue conversation que l'on imagine comme ça dans une sorte de palais des doges, à la fois humide, puissant, secret et magnifiquement décadent, et en même temps superbement confronté à un moment de l'histoire. Je crois que c'est un chapitre parmi qui au fond fait des études de sciences politiques et qui est toujours refusé de faire de la politique, qui est un des moments de grande méditation sur l'histoire au fond. Et voilà, le monde est sauvé par ceux qui vont là-bas, par ceux qui osent franchir le monde, par ceux qui cèdent à la tentation et qui ne consentent pas à la destruction, enfin à l'ensommeillement, je dirais. Et Maréma, de ce point de vue-là, il y a des pages absolument extraordinaires sur les bruissements de cette vieille cité, avec ses notables, ses jeux de pouvoir, son côté un peu rance, quoi. Et le doge, Daniello, qui le reçoit en tête à tête, et donc sans témoin, va au fond lui faire la confession de pourquoi il l'a envoyé là-bas, en sachant qu'il pressentait que ce jeune homme ambitieux, on pense un peu, d'ailleurs, vous savez que Julien Gracq, ça vient aussi de Julien Sorel, et donc de l'amour des Gracq. Louis Poirier et Julien Gracq avaient une grande connaissance de Stendhal, et au fond, le personnage d'Aldo me semble assez stendhalien. on a des échos du Julien Sorel et du Rouge et le Noir. Donc oui, c'est un ambitieux, mais pas simplement pour lui-même. C'est un ambitieux pour l'histoire. C'est un ambitieux qui a envie de se confronter au grand fracas du monde, d'une certaine façon, et qui n'accepte pas cette espèce de vie un peu lasse et compassée dans laquelle il est. Et donc, quand le doge Danilo l'envoie, il le suit, au fond, d'assez près, et il le laisse faire. Et il le laisse franchir la ligne, cette ligne indistincte sur les cartes, et qu'il va franchir avec ce navire et qui va mettre en branle l'histoire. Et au fond, le doge Danilo sait qu'il va se passer quelque chose de cet ordre, et que il dit quelque chose d'étonnant dans ce chapitre. C'est au fond l'immense facilité qu'il y a à mettre en branle un mouvement de l'histoire et à faire que des choses s'enclenchent. Et d'ailleurs, on a dans la fin du livre les prodromes des premières mobilisations qui se passent au Farghestan et des tribus qui voisinent et qui sont en train de s'armer. Et donc, voilà, on est dans l'annonce de la guerre, mais on ne voit pas. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que c'est une assez grande et belle méditation politique dans un monde qui me parle, qui m'est proche, et je crois que c'est un, voilà, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature, et que au fond on parle assez peu de Julien Gracq. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois, puisque j'ai fait visiter à Régis Debray l'exposition Lieux Saints Partagés au Mucem, et je sais que Régis Debray, parce que j'ai lu des textes, Régis Debray était proche de Julien Gracq, il allait le voir régulièrement, il y avait des échanges importants, etc. Et il avait sentiment d'ailleurs de lui d'être passé à côté de sa vie en étant finalement un militant politique, ce qu'a été d'ailleurs Gracq, qui a de très très courtes années à la CGT, au Parti communiste, et très vite il a arrêté toute mobilisation politique pour se vouer à la littérature. Et quand je lui ai dit que oui, j'étais un lecteur de Gracq, et il m'a dit « Ah, vous en êtes !» Comme s'il y avait un club secret des lecteurs ou des admirateurs. Parce que c'est vrai que j'ai lu à peu près tout Gracq, mais j'aime beaucoup son œuvre critique, en particulier que ce soit les essais manifestes de la littérature à l'estomac, ou En lisant, en écrivant, qui est à mon avis un livre absolument magistral pour apprendre à lire des textes, à connaître la littérature. Mais Le rivage des Sirtes reste, c'est le premier livre de Gracq que j'ai lu, et il reste dans mes yeux son chef-d'œuvre.
Ouais, il garde une place particulière. Alors on va faire une petite pause musical avec un morceau d'un compositeur français qui s'appelle Daniel Mill, un morceau qui fait écho à notre roman puisqu'il s'appelle L'attente. Le livre de Frog. Thank you.
L'attente. Alors, effectivement, le roman de l'attente, pour moi, ça a été vraiment cette expérience. Comme je dis, en plus, de nous trois autour de cette table, j'étais la seule à avoir cette première lecture. Et effectivement, cette attente qui va faire surgir l'événement. Et je le disais déjà tout à l'heure, l'événement qui ne nous est pas donné à voir en tant que tel. Et effectivement, Grac, et je voulais revenir là-dessus un moment avec vous, il a vraiment ce talent, j'ai trouvé, de nous faire sentir l'attente et l'inertie. C'est-à-dire, c'est vraiment, on par le style, par les descriptions, par le rythme du roman, il y a cette inertie, pas seulement qu'on nous explique, que l'on ressent. Et je voulais parler de mon expérience de lecture, donc première, parce que réellement, j'étais triste au final de ne pas avoir plus de temps pour pouvoir plus apprécier. Parce que du coup, j'ai dû le lire vite, et je sens que je suis un peu passée à côté du style, parce que justement, eh ben, c'est le style qui est dense, qui est profond et qui veut faire sentir, voilà, l'inertie, la profondeur, la vieillesse d'Orsena. Et donc, ça, et à un moment donné, on a ça pendant 200 pages, vraiment. Et puis on est là, on sent tout ça et d'un coup, il se passe. Aldo finit par traverser et j'ai trouvé ça fou parce que d'un coup, moi qui étais pressée, eh ben, ça allait beaucoup plus vite dans ma lecture. Ça allait beaucoup plus vite jusqu'à ce qu'on disait tout à l'heure, cette méditation finale, cette discussion finale qui aboutit quand même à la fin du roman avec cette phrase qui est quand même assez magistrale dans un roman de 330 pages qui nous dit « Je savais pourquoi désormais le décor était planté ». Et c'est vrai que du coup, avec Elodie, on se disait « C'est quand même un sacré tour de force un sacré tour de force littéraire, le rivage des Sirtes.
C'est ainsi que les choses commencent, au moment où tout prend fin. Donc
voilà.
C'est effectivement c'est magistral, c'est-à-dire que c'est une écriture sensible. On a dit en présentant Grac tout à l'heure qu'il était géographe. Et je pense que c'est une écriture géographique au sens de paysage sensible, de quelque chose, des impressions. Et il a cette richesse imaginaire de trouvailles de langue en même temps. C'est-à-dire que c'est pas une langue commune. Et c'est pas une langue précieuse non plus, ni absconte. Absconte, on peut se laisser. Elle est presque, c'est des proses poétiques avec beaucoup d'images. Et c'est comme ça que, effectivement, vous avez raison de dire qu'il rend perceptible ce rapport au temps. Donc je regrette que vous ayez dû le lire rapidement, parce que cette première lecture va être, j'imagine, une invitation à le lire en prenant tout le temps qu'il faut, parce que c'est un écrivain qui nous donne le sens de la mesure, ou serait-ce qu'au sens, presque comme on bat la mesure musicalement. C'est une écriture, je trouve, assez musicale. Et c'est l'attente, l'inertie, mais jamais l'ennui. Parce qu'on sent les frémissements des pierres, des corps, des êtres, du politique. On sent qu'il y a quelque chose qui est là. Qui va attendre jusqu'à ce chapitre de la confrontation, du dialogue final. Mais on suit ce héros, on suit ces villes, et je trouve que c'est une très belle méditation sur l'histoire je pense, d'une assez grande actualité aujourd'hui, où il y a la tentation de la décomposition. Et voilà, ce qu'il dit à la fin, ce que le doge Daniello le dit, le monde, Aldo, fleurit par ceux qui cèdent à la tentation. Le monde n'est justifié qu'aux dépens éternels de sa sûreté. Et je crois que, après les tristes moments que l'on connaît en France, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans la sûreté, dans la sécurité, et bien sûr qu'il faut être vigoureux et vigilant. Mais voilà, ce qui me paraît important chez Grac, c'est que c'est un écrivain de l'ouvert. C'est quelqu'un qui nous dit il faut aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Et ça me touche particulièrement. Je dirais que c'est presque une géographie intime que moi j'ai toujours gardée très, très proche en moi, et qui gouverne ma façon de voir le monde.
C'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous dites sur le côté géographique de cette œuvre, je voulais revenir là-dessus. C'est vrai que le rivage des Sirtes, on est nous aussi lecteurs focalisés sur un horizon inconnu, mystérieux, mais il y a une vraie tension vers ce lieu-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce rivage des Sirtes, c'est qu'on suit Aldo, vous le disiez déjà un peu, à Orsena, à Maréma, dans les ruines de la ville morte de Sagra, sur le ponton sur le bateau, le redoutable, on s'approche des lignes. Il y a quand même une idée aussi de la frontière qui est...
De l'aventure, presque.
De
aussi.
L'aventure, exactement.
Sans que ce soit jamais un roman d'aventure.
Bien sûr. En effet. Et on pourrait cartographier ce roman, le chapitre de la chambre des cartes, est un très grand point de repère pour nombre d'écrivains aujourd'hui qui se sont tous imaginés, je crois, en Aldo, à observer ces cartes et à attendre qu'elles se réveillent. Et je voudrais vous interroger sur l'articulation qu'il ne faut pas oublier de faire entre l'histoire dont on parle et la géographie dans ce livre. J'ai retrouvé un témoignage de Gracq lui-même sur le rivage des Sirtes. Il écrit... Quand l'histoire bande ses ressorts, comme elle fit pratiquement sans un moment de répit de 1929 à 1939, elle dispose sur l'ouïe intérieure de la même agressivité monitrice qu'a sur l'oreille, au bord de la mer, la marée montante dont je distingue si bien la nuit à Sion, du fond de mon lit et en l'absence de toute notion d'heure, la rumeur spécifique d'alarme, pareille au léger bourdonnement de la fièvre qui s'installe. Je voulais que vous poursuivez.
Vous avez vu cette qualité d'écriture,
oui.
de ces images qui mises bout à bout, parfois on ne comprend pas. Et puis quand dans le rythme de la phrase, on perçoit très très bien ce qu'il veut dire du bourdonnement de l'histoire, de l'écho.
De la rumeur.
De la rumeur du monde, de la façon de ne pas en être absent et de lui donner sens et forme à travers l'écriture. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui... à vouer sa vie à l'écriture. Il avait une double vie d'enseignant de géographie au lycée Claude Bernard à Paris, où il est resté de 1947 à 1970. Et puis tous ces moments de en dehors de son métier de professeur de géographie dans un bon lycée parisien étaient d'écrire. De voyager un petit peu en voiture quand il a acquis une voiture, et puis surtout de se vouer à l'écriture, parce qu'il avait compris que par l'écriture, il y avait la possibilité de transformer le monde, quelque part. Et c'est sa façon à lui, de géographe, d'être dans l'histoire.
Donc, pour continuer, peut-être retourner aussi à des choses que vous avez déjà évoquées très joliment. C'est vrai que dans tout cet imaginaire territorial, on pourrait dire, qui est mis en place, dans cette cartographie imaginée, il y a l'importance de la mer. Et on le voit déjà dans le titre quand on dit le rivage des Sirtes. C'est-à-dire que le rivage arrive, il y a quelque chose, c'est la mer qui occupe une place importante parce qu'elle est aussi la place de la projection, de l'imagination. Et donc, on voulait revenir sur cette mer qui porte et inspire comme ça les imaginations, presque les fantasmes aussi. Et donc, avant d'entamer cette petite partie de l'émission, on voulait passer aussi une autre chanson qui s'appelle Naval, de Yann Tiersen, qui est extraite donc, de la bande-son du documentaire Tabarly, qui est sorti en 2008, et qui était consacrée donc, au navigateur français Éric Tabarly. Donc voilà, on écoute Naval. Thank you. le livre de Frog.
Alors, je voudrais revenir à l'imagination un petit peu.
Moi, je voudrais juste vous dire combien je suis touché par vos choix musicaux. Il se trouve que, pour évoquer la mer, je ne connaissais pas cette pièce de Jan Tiersen. Et je trouve qu'à l'écouter, on se plonge dans l'imaginaire du rivage des Sirtes. Très bien, enfin, comment la musique sait nous parler. Donc, moi, je suis ému par vos choix musicaux.
Merci beaucoup. On est contente que l'atmosphère soit là pour parler du rivage des Sirtes. Je disais que je voulais revenir à l'imagination, cette imagination qui, dans le rivage des Sirtes, il me semble, agit comme une fièvre, finalement. Et je voulais citer le rivage, puisque je ne me lasse pas de citer Grac. « Tout dormait à la mirotée, mais de ce sommeil atterré et mal rassurant, d'une nuit grosse de divination et de prodiges, j'exaltais cette vie retombée de ma patience. Je me sentais de la race de ces veilleurs, chez qui l'attente interminablement déçue alimente à ses sources puissantes la certitude de l'événement. » Et le capitaine Marino dit justement à Aldo de se méfier de cette imagination. Il lui dit « L'imagination est de trop dans les Sirtes, je t'en avertis. » Alors je voulais avoir votre avis sur cette imagination. Est-ce que finalement c'est une fièvre qui est partagée avec le lecteur? Grac disait que le rivage des Sirtes c'était un rêve éveillé. Est-ce que c'est même un peu plus qu'un rêve éveillé finalement?
Pour moi c'est un rêve persistant. C'est quelque chose qui se dépose en soi et qui vous traverse et vous travaille. Qu'est-ce que c'est une vie sans rêve? Les sociétés qui sont les nôtres sont devenues fonctionnelles, organisées sur la marchandise, l'accélération, et ont laissé partir cette part de rêve. Comme on fait son rêve, on fait sa vie, disait Victor Hugo dans ce promontoire du songe qui là aussi m'a servi de boussole pour créer cette exposition. Et Grac est sans doute celui qui sait combien la part de rêve qui est au cœur de toute enfance est dans l'enfance du monde. C'est-à-dire que la perdre, c'est le plus grand renoncement qui soit. Quelle que soit l'âpreté et la tragédie de l'histoire. Et je pense que renoncer à ses rêves, c'est être déjà mort. Et nos sociétés ont produit des êtres déjà morts ou qui sont fascinés par la mort et qui veulent ainsi la donner. Donc Grac est effectivement un éveilleur. Et c'est quelqu'un qui peut nous rappeler d'être fidèle à ses propres rêves. Je crois que Julien Grac peut accompagner, et ce qui est bien, c'est que c'est un texte qu'on peut lire à plusieurs âges de la vie, justement en se rappelant de ne pas être dans cette espèce de cynisme et de regard sur le monde qui est au fond assez désespérant. Je crois que nous sommes entrés dans une époque particulièrement tragique, violente, noire, mais qu'il ne faut pas perdre ce que moi j'appelle le bleu, c'est-à-dire cette capacité à rêver le monde et à penser à un après, parce qu'on en sortira. On en sortira, mais pas dans la en étant désespéré, par la solidarité des ébranlés, comme disait un philosophe, Jan Patočka. On en sortira justement en étant fidèle aux rêves, et on a besoin de savoir qu'il y a de la beauté du monde, qu'il peut y avoir de la tendresse, qu'il peut y avoir cette sensibilité, ce qu'au fond la littérature nous apprend, ou ce que les enfants petits nous apprennent, parce qu'on ne devient homme, on est très fragile, on est les seuls les humains qui ont besoin d'être accompagnés pendant les 8 ou 10 premières années de leur vie par les proches. Sinon, voilà, c'est ce qui nous donne cette humanité. Et donc, pour moi, Julien Grac, à travers sa musique première de littérature, et j'étais encore très heureux de l'entendre lu par vous, et quelqu'un qui nous rappelle à cette part de rêve et à ce rêve persistant, quelle que soit l'âpreté du monde. Et moi je ne suis pas dans le déni de la confrontation, de la violence, de la haine, mais comment on y fait face? Je crois que Julien Gracq est quelqu'un qui nous apporte, si ce n'est un antidote, en tout cas une capacité à nous rappeler notre mesure humaine. Et ça renvoie chez moi à deux autres écrivains qui sont toujours dans mon bureau, qui m'ont accompagné, qui étaient pendant les 10 ans où je dirigeais La Pensée de Midi, qui sont René Char et Albert Camus.
Ah. Je regarde Erika parce que vous avez une très grande amatrice d'Albert Camus, voilà, en face de vous.
Donc oui, vous parlez à mon cœur.
Je ne le savais pas.
Ouais, tout se croise. Mais vos propos me font réfléchir aussi sur le coup. Et c'est vrai que vous parlez de nos sociétés, et en fait, on sent aussi, c'est-à-dire on parle beaucoup d'Aldo, mais notamment dans cette... tout ce qu'on voit aussi se mettre en place dans le roman, et ce qu'il y a, et cette conversation finale insiste là-dessus, c'est que tout Orsena, en fait, attend un Aldo. C'est-à-dire, à la fin, Danilo dit, si tu n'avais pas existé, on t'aurait inventé, ou quelque chose comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait besoin à Orsena d'un Aldo. Et ça me fait penser, du coup, à une question que je n'avais pas forcément prévu de vous poser, mais parce que ce personnage m'intrigue. Et que justement, c'est le personnage qui aussi influence beaucoup Aldo et le pousse. J'ai oublié son prénom, je l'avais tout à l'heure, la jeune femme.
Vanessa.
Vanessa. Voilà. Ce personnage... vous le voyez comment? Vraiment, c'est une question, parce que comme j'ai pas eu le temps de le... on le sent, son importance, on sent le... Voilà, mais elle pousse, et elle est dans cette fièvre, elle déménage dans l'autre ville, et elle est portée, et elle porte aussi Aldo vers ça. Ou pas?
Je n'ai pas de qualificatif particulier pour ce personnage de Vanessa. Ce qui est sûr, c'est que... le rêve se partage, quoi. Et donc je crois que c'est quelqu'un qui entend le désir d'Aldo d'aller là-bas. Et aller là-bas, ça se raconte. Ça se raconte par l'intimité qu'il peut avoir avec Vanessa, je pense, quelque chose de cet ordre. Mais... je crois que les personnages, peut-être c'est une critique qu'on peut faire parfois, c'est qu'on a pu trouver les personnages du roman un peu trop erratiques ou désincarnés. Voilà, mais c'est parce qu'il est dans un monde, comment dire, il participe du paysage poétique et littéraire qu'il construit. Il ne peut pas faire exister des personnages qui seraient détonnants par rapport à ça. Il a une grande maîtrise de la ligne, enfin un peu la ligne de crête, comme quelqu'un qui presque comme un dessinateur, d'une certaine façon. Et donc tout est juste dans ce livre, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Enfin, il est aussi intriguant, mais ça participe aussi justement de cette attente qui, comme vous dites, tombe pas dans l'ennui, mais parce que notamment Vanessa, moi je me dis mais...
Oui, mais tout c'est... est... Regardez, tout est dans des points, si on pouvait le qualifier ce livre, ce serait des points de suspension. Et les points de suspension, ça veut dire quoi? C'est justement la part laissée à l'imaginaire. Je pense que c'est un grand livre qu'on peut lire, relire plusieurs fois, parce que c'est une invitation à l'imaginaire, et que l'imaginaire travaille, et que selon les périodes de la vie, selon les moments, selon etc., on va rêver d'autres choses. Et je pense que c'est en ça que c'est un livre ouvert. Et donc il y a des points de suspension. Moi j'aime beaucoup les points de suspension, parce que ça ne clôt, c'est un livre qui n'est pas clos sur lui-même. Et d'ailleurs, vous avez donné la dernière phrase, voilà, le décor est planté, et maintenant l'aventure commence. L'aventure commence, et ben c'est vous qui allez l'écrire, mes chers lecteurs, et pas moi. Et moi je vous vous ai introduit dans ce monde. Mais quelle chance d'être entré dans cet univers que Gracq a créé de toutes pièces, et qui n'est justement pas un décor vide et une histoire vaine, mais quelque chose qui nous met en prise avec le monde.
Alors, peut-être que j'ai le temps d'une dernière question. Avant la chronique finale, je voulais rebondir sur l'allusion que vous faisiez aux événements qui se sont déroulés dernièrement.
Faire attention, parce que c'est comme ça qu'on appelait la guerre d'Algérie, les événements.
Exactement, donc, c'était un euphémisme très malheureux, mais aujourd'hui on sait à quoi je fais allusion. Et c'était pour reparler aussi de littérature. Erika disait que nous avions été un peu surpris par votre choix. Et en même temps, moi, ça m'a d'autant plus passionnée de parler de Gracq aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Et je voulais juste rebondir sur cette idée que la littérature nous offre un écart extrêmement salutaire, et que justement, il faut ne pas oublier de rechercher cet écart aussi quand des événements comme ça se produisent. Vous parliez de Char, que l'on cite parfois mal à propos. Il a écrit tellement d'aphorismes que chacun a ses préférés, mais il y en a un qui me revient là, je ne sais plus si c'est dans les feuillets d'hypnose, peut-être, sûrement, la sécurité est un parfum. Mais est-ce que vous pourriez peut-être justement réagir à ça, cette idée que l'écart qu'offre la littérature est salutaire, et il ne faut pas oublier d'en profiter.
Ça renvoie aux profondeurs. Est-ce qu'on peut résister sans conviction? Est-ce qu'on peut faire face au monde sans cap? Est-ce qu'on peut s'inscrire dans la cité en flottant dans l'actualité, en étant perdu? Non. À la différence de Gracq, qui est un homme du retrait, Char est un homme de, je dirais pas de l'excès, mais de l'acte, et en même temps de la poétique pré-socratique, enfin avec une lecture d'Héraclite, et les feuillets d'hypnose sont des textes héraclitéens, comme ça, qu'il a écrit en dirigeant un maquis à ses restes, avec... peut-être les plus belles pages qui ont été écrites sur la résistance, avec le billet à Francis Curel, par exemple. Et moi, dans tous les moments où ça tangue, René Char est un repère. Et donc, parce que à travers ces mots, il y a le sens de la beauté, de la délicatesse, et en même temps d'une forme de force, enfin de force inscrite dans l'histoire, et de capacité à dire non, d'être claquemuré dans cette violence et de cette haine, et qu'il est dévasté de devoir faire appel à cette violence, mais en même temps il préserve cette fragilité qui nous fait homme. Et je pense que face à l'inhumanité, parce que, et à cette lâcheté de tuer des êtres qui sont attablés dans un café ou qui sont dans un concert, eux armés et les autres désarmés, il y a un très beau texte que vient de publier Éric De Luca, que j'ai vu dans Les Inrecuptibles. Oui, c'est un acte de lâcheté et d'infamie. Et face à ça, c'est pas simplement de se draper dans la civilisation contre la barbarie. Non, c'est d'abord parce que on a notre propre barbarie à la fois personnelle et de nos propres sociétés. Mais la littérature est une sève. C'est pas un divertissement. C'est pour ça que c'est plus qu'un écart. C'est un centre. C'est quelque chose à partir duquel on s'oriente, c'est-à-dire alors que nous sommes de plus en plus désorientés, déboussolés. C'est vrai que lire Gracq ou lire et relire René Char aujourd'hui, c'est retrouver à la fois un goût du monde et puis une volonté de se dresser, de ne pas renoncer et d'ouvrir quelque chose pour demain. Et donc oui, il faut continuer à être dans l'ouvert et aller là-bas.
Bien, moi je vous remercie sincèrement pour cet échange extrêmement beau, tout simplement. Donc vraiment, je vous remercie. Et puis il va falloir enchaîner sur autre chose.
Ouais, oui, parce que l'émission va se terminer, mais se termine vraiment d'une façon très forte. Eh bien, comme chaque mois, on est passé dans une librairie pour attraper quelques conseils de lecture. Et c'est Erika, tout à l'heure, qui s'est précipitée à Maupetit, c'est ça ?
Le livre de Frog. Un mot petit, c'est ça. Donc sur la canebière, et effectivement, donnons à lire encore, toujours. Et puis alors, j'ai rencontré, comme la première fois où j'étais allée chez mon petit Geneviève du rayon littérature, qui m'a proposé, je lui ai demandé des conseils pour Noël, comme nous approchons, disait pourquoi pas offrir des livres, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis elle m'a proposé de faire un petit tour dans les différents rayons de la librairie, et puis de proposer aussi d'autres choses. Donc je me suis baladée sur les deux rayons de Maupetit, et puis j'ai rencontré d'abord Sandrine et Virginie, donc du rayon pratique et bien-être, qui m'ont conseillé et proposé un livre de cuisine qui s'appelle Bolly Food, la cuisine indienne en 100 recettes, qui est écrit par Jean-François Mallet, donc Jean-François Mallet chez Hachette, et donc qui propose effectivement de découvrir la cuisine indienne, mais aussi, et c'est vrai que c'est un très beau livre, puisque j'ai pu le feuilleter, la tradition et la culture indienne, avec de très belles photos, des textes et des dessins qui permettent effectivement d'entrer dans cette culture par le biais de cette cuisine, mais sans pourtant s'y restreindre. Donc voilà, pour les amateurs de cuisine et de beaux livres, ça peut être une idée. Ensuite, je suis allée au rayon Beaux-Arts et Sciences Humaines, où j'ai rencontré Cédric, donc, qui est donc dans les plutôt spécialistes Sciences Humaines, et qui m'a conseillé donc ce livre, Des hommes et des bagnes, Guyane et Nouvelle-Calédonie, un médecin au bagne, 1906-1913, aux éditions Libertaria, donc, qui est en fait écrit par le docteur Léon Colline, donc un médecin du début du siècle qui a officié, qui exerçait donc dans les bagnes, Guyane, Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on a retrouvé ses archives avec qui inclut également des photos personnelles, ce qui est assez rare, ce que me disait Cédric, il y a peu de photos de l'intérieur des bagnes, donc c'est aussi ça qui est donné à découvrir, et donc aussi la trajectoire et les archives de ce docteur Léon Colline, qui, médecin libéral, était assez conservateur au départ, et puis progressivement, ce que montrent ses archives, c'est qu'au contact de la réalité des bagnes, sa vision va changer, il va adopter une vision plus humaniste, voire même parfois aussi des positions proches de l'anarchisme. Donc Cédric m'a dit que c'était un très beau livre, qui se lisait comme un récit de voyage, qui invitait effectivement également à partir vers un ailleurs, découvrir autre chose, voilà, des hommes et des bagnes en sciences humaines. Et puis enfin, on a pensé, on l'évoquait, l'imagination des enfants. On l'avait déjà évoqué avec Elodie, l'idée de le faire. Et enfin, on l'a fait. Je suis allée voir Claire au rayon BD pour penser aussi aux enfants qui découvrent, qui lisent, qui imaginent. Et donc, Claire m'a conseillé une bande dessinée qui s'appelle Hassib et la Reine des Serpents chez Gallimard. C'est l'adaptation par David B, qui écrit d'habitude plutôt des bandes dessinées pour les adultes. Donc l'adaptation ici d'un conte des Mille et une Nuits. Donc c'est la première partie, c'est-à-dire que d'autres volumes sont attendus. Et donc un conte qui n'est pas des plus connus, où on est tout de suite embarqué, m'a dit Claire, avec des illustrations très colorées, plein de détails, qui nous plongent tout de suite dans l'univers des contes orientaux. Donc Hassib et la Reine des Serpents, que Claire nous conseille à partir de 9-10 ans, sans s'arrêter, puisqu'après il n'y a pas d'âge, et que même les adultes peuvent le lire, puisqu'elle m'a dit c'est juste super beau. Donc voilà, je transmets et puis je remercie donc tous ces libraires qui nous ont donné ces conseils.
Oui, merci à eux. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci infiniment Thierry Fab d'être venu nous voir.
Avec joie.
Merci beaucoup.
Et puis au mois prochain. Et merci à Jean-Baptiste.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre The Frog. Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.